France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. C'est ce matin une sélection de quelques livres jeunesse pour tous les âges, idéal en cette période de vacances scolaires. L'occasion de demander à notre club de lecture comment donner le goût de la lecture, alors que notre pays connaît un décrochage généralisé dans l'ensemble de la population, selon le Centre National du Livre. Quelle influence peut avoir des adultes qui ne lisent plus sur la pratique de leurs enfants et de leurs adolescents? Nous recevrons également deux jeunes auteurs jeunesse, Marie-Pierre Planchon et Daniel Mourin, qui nous raconteront leur lecture d'enfance. Et vous, quels sont les coups de cœur littéraires de vos enfants et de vos ados au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. L'émission va être assez compliquée ce matin, je sens.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Bon, tu as quel âge ?
12 ans.
Et que lis-tu généralement ?
Beaucoup de livres d'aventure, pas beaucoup d'illustrés.
Oh, des livres d'aventure, des livres il y a des mystères, puis beaucoup de livres de Jules Verne aussi.
Astérix, Tintin, Lucky Luke.
Est-ce que tu trouves que c'est important de lire ?
Oh oui, mes parents me le disent assez.
Ils te disent ça souvent ?
Oui, ils trouvent que je lis pas assez.
Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es encore très jeune ou est-ce que tu penses que tu auras jamais envie de lire dans ta vie ?
Bah, j'aurais peut-être envie, mais enfin pour l'instant, j'ai pas envie.
Qu'est-ce que tu préfères faire plutôt que de lire ?
M'amuser. Je sais pas, moi, on m'a conseillé de lire parce que ça servait beaucoup pour les études. Enfin, je me suis mis à lire, mais enfin...
Tu mets combien de temps pour lire un livre, généralement ?
Alors, quand ça m'intéresse, je lis le plus vite possible.
Archivina de 1972. Bonjour Marilyn Duval.
Bonjour.
Vous êtes bibliothécaire jeunesse à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Vous animez un club de lecture, l'écrit des ados, et vous êtes accompagnée d'une jeune lectrice, Joséphine. Bonjour Joséphine.
Bonjour.
12 ans, élève au collège Jean Moulin de Montreuil. Ça t'inspire quoi, les jeunes de 1972 qu'on a écoutés, là, qui doivent avoir aujourd'hui l'âge de Daniel Morin, au moins. Ça t'inspire quoi?
C'est assez particulier. Je ne suis pas forcément en accord avec leur goût en matière de livres, j'ai l'impression. Mais après, lire, c'est intemporel.
Pas mal, ça commence bien.
Le niveau est trop haut pour moi. Je pense que Daniel peut partir.
Je m'en vais. Joséphine, tu nous conseilleras tout à l'heure ton coup de cœur du moment. Bonjour Maxime Massol.
Bonjour.
Vous êtes libraire à Paris chez Chantelivre. Bonjour Raphaël Bott.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Télérama et vous êtes l'autrice de 100 grands livres pour les enfants, coécrit avec Sophie van der Linden chez Grund. Avec nous également les John Steed et Emma Peel de France Inter. Marie-Pierre Planchon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice historique de la chaîne Monuments vivent en Inter, La Voix de la Météo, sur notre chaîne depuis une dizaine d'années. Et vous publiez Jeannette et les faits du temps qu'il fait, illustré par Laure Philippon chez Michel Lafon dans la collection Une histoire et au lit. Bonjour Daniel Morin.
Bonjour Ali.
Le sale gosse de France Inter qui officie dans le 5-7 de Mathilde Munoz et dans la bande originale de Nagui. Et vous publiez chez le même éditeur Bouboule, la poule trop cool.
Un chef-d'œuvre.
Bon, Bouboule, vous n'êtes pas inspiré de moi, j'espère. Bouboule,
non, pas du tout. Bon. Trop cool non plus.
Allez. J'aimerais commencer avec cette étude assez inquiétante réalisée par le Centre National du Livre et Ipsos, Les Français et la Lecture, une étude réalisée chez les Français de plus de 15 ans. Tout genre, toute catégorie socioprofessionnelle et toute tranche d'âge confondue. Il n'y a jamais eu aussi peu de lectrices et de lecteurs depuis 2015. Et la lecture baisse surtout chez les lecteurs réguliers. La proportion de Français ayant lu au moins 5 livres au cours des 12 derniers mois diminue. Une baisse plus marquée chez les 50-64 ans, les moins de 35 ans et les hommes. Ce qui signifie que les enfants et les ados voient nettement moins leurs parents ou grands-parents lire, Maxime Massol. Avec quelle influence, justement, sur le désir de lecture chez les plus jeunes ?
Moi, cette étude me fait un peu mal au cœur et surtout me surprend parce que je dois bien avouer qu'à la librairie, on a toujours autant de clients férus de lecture. Après, effectivement, c'est vrai que plus on voit nos parents lire, plus nous-mêmes on a envie de lire. Il y a quand même un effet d'imitation. Après, je serais assez curieux d'avoir peut-être des retours de Marilyn en bibliothèque, parce que j'ai aussi vu qu'il y avait effectivement une baisse visiblement de la fréquentation. Ce qui m'étonne aussi, parce qu'en tout cas, J'ai l'impression de voir toujours autant de monde en bibliothèque, mais parfois, on peut se tromper aussi.
Alors, n'oublions pas, Maxime, que vous êtes libraire dans une librairie phare à Paris,
et oui,
dans
je sais
un
bien.
Quartier
je sais bien.
Plutôt privilégié, et que ça ne représente pas évidemment la pratique de lecture de l'ensemble du
vous
pays.
Vous n'êtes pas représentatif de tout, monsieur.
mais on vous aime bien quand même, là. Maxime Massol. Marilyn Duval, est-ce que vous constatez chez vous à Montreuil une baisse de la fréquentation de votre bibliothèque?
Alors, pas du tout. Cette année, nos statistiques de prêts et de fréquentation ont retrouvé les chiffres d'avant 2019 qui étaient vraiment très hauts et ont même dépassé ces chiffres-là. Donc c'est vrai que nous, on a vraiment, on est comme Maxime.
Mais c'est peut-être lié aussi à la politique que vous menez dans cette bibliothèque à Montreuil avec ce club de lecture, les cris des ados.
Alors, il est vrai que on a la chance d'avoir une politique culturelle assez engagée et que les bibliothèques sont partout, font partie du paysage culturel et donc sûrement que ça aide à nous connaître et à la fréquentation. On essaye aussi de proposer des choses à toutes les catégories socio-professionnelles, qu'on soit de très bons lecteurs ou de mauvais lecteurs, si tant est qu'il y ait des mauvais lecteurs ou de petits lecteurs peut-être. Et donc on est vraiment sûr, on a cette chance d'avoir des politiques publiques importantes.
Joséphine, toi, qu'est-ce qui t'a décidé à fréquenter ce club de lecture, les cris des ados?
Bah, en fait, j'en ai entendu parler par des amis et je me suis dit, le principe, il a l'air chouette. Donc le principe, c'est qu'on peut emprunter des livres comme à la bibliothèque, mais on doit faire des petites chroniques pour alimenter et donner un avis dessus. Et je trouvais que le principe était très intéressant, en fait. C'est participatif.
Qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel de fréquenter ce club de lecture ?
D'avoir tout le temps des livres à lire.
Et d'en discuter.
Oui, c'est ça.
Raphaël Bott.
Dans l'étude, justement, ils ont comparé ce qu'ils pouvaient faire lire ou acheter les livres. Alors, ce n'est pas tout à fait la tranche d'âge de Joséphine, mais en tous les cas, les meilleurs prescripteurs, c'est justement les amis, l'entourage, les copains, en parler ensemble. Donc, de mener des actions comme ça, coopératives, qui touchent, qui favorisent le dialogue entre ses amis, entre ses pairs, PAIR, etc., ça peut être un élément déclencheur pour lire. Moi aussi, cette étude, évidemment, elle me désespère. Et évidemment, dans un monde génial, c'est plus facile de lire quand on a plein de livres sur sa table de salon, quand les parents lisent. Évidemment, après, tout faire reposer sur les parents et culpabiliser, je pense que ce n'est pas une solution non plus. Et que c'est aussi quelque chose de société et que des politiques publiques fortes sur les bibliothèques, à l'école aussi, tout ça, ça participera à mener des actions qui favorisent la lecture et à lutter contre un déterminisme social, parce que sinon ça voudrait dire qu'il n'y a que les enfants de lecteurs qui vont lire.
Maxime Massol.
Oui, puis pour modérer un petit peu quand même mes propos, je ne peux pas dire que tous les lecteurs, les jeunes lecteurs qui rentrent dans la librairie sont ravis de venir choisir un livre à lire pendant les vacances. Hein. C'est parfois aussi un défi quand même. Hein.
Parmi les livres que les Français lisent le plus, Maxime Massol, on retrouve les mangas. Un Français sur cinq lit des mangas, 44% chez les moins de 20 ans.
Oui, ce qui est intéressant avec le manga, là il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on a plusieurs publics, bien sûr, les grands-parents par exemple qui viennent avec la liste de mangas demandés par les petits-enfants, alors qu'ils généralement n'y connaissent rien, n'ont pas envie de découvrir, sont souvent réfractaires, mais on a aussi beaucoup de parents qui ont lu des mangas quand même quand ils étaient plus jeunes par exemple.
Et aujourd'hui, la génération Club Dorothée.
Voilà, et il y a vraiment quelque chose d'intergénérationnel qui est en train de se faire autour du manga, les gens comprennent mieux ce que c'est, ils ont moins d'appréhension par rapport à tout ça, et c'est aussi dans cette optique-là que typiquement l'école des loisirs, une maison emblématique de la littérature jeunesse en France, a lancé une collection qui s'appelle Le Renard Doré avec Rue de Sèvres, qui est une collection de mangas. On n'attendait pas nécessairement l'école des loisirs sur ce segment-là. Ils ont réussi à faire quelque chose, je trouve, d'assez original. Je trouve que là, on arrive quand même à un point où maintenant, c'est plus accepté. Et ça peut être une porte d'entrée vers la lecture tout à fait honorable et chouette, quoi.
Alors, le moment préféré pour lire reste le soir avant de se coucher. 46%, selon la même étude, lisent le soir avant de se coucher. Une histoire et au lit. Belle transition, Daniel Morin. C'est le nom du podcast d'histoire de France Inter destiné aux enfants. Vous avez, Marie-Pierre Planchon et Daniel, raconté des histoires dans deux podcasts respectifs qui ont donné naissance à des livres illustrés. Comment est née cette aventure, Marie-Pierre Planchon, Jeannette, et l'effet du temps qu'il fait ?
Elle est venue de l'inspiration et d'une demande. C'est une fusion entre ces deux données, en fait. Il y a Léonard Biot qui s'occupe de cette collection, qui un jour m'a dit « Oh, mais pourquoi tu ne nous écrirais pas une belle nouvelle, enfin, une histoire pour Oli ?» Oh, j'ai dit « Oui, bah oui, tout de suite, évidemment, puisque j'ai envie d'écrire. » Donc, voilà. Et Jeannette est arrivée parce que ma nièce s'appelle Jeanne et tout de suite, elle m'a inspirée. Je l'avais déjà enregistrée. « Coucou la lune, les étoiles !» Enfin, voilà.
Elle vous lui dédiez toujours... d'ailleurs ce livre. Et vous, Daniel Morin ?
Moi, on m'a rien demandé. J'ai dit, dis donc, pourquoi moi, j'écrirais pas une histoire ? Donc, je sais pas, ils ont peut-être eu peur. Ils m'ont dit, mais oui, mais quelle excellente idée. Donc, je l'ai fait. Alors, je précise, personne dans ma famille ne s'appelle Bouboule. C'est juste un personnage de totale fiction.
Bien sûr. Oui. On y reviendra tout à l'heure. Quelles sont les lectures de jeunesse, d'enfance, d'adolescence qui vous ont le plus influencé, Marie-Pierre Planchon ?
Ah ben, je vais... être classique, hein, Cendrillon, La Belle au bois dormant, toujours avec cet espoir que l'amour triomphe, la chance arrive.
Alors, réveil est difficile.
Voilà, et puis après, il y a eu un réveil assez dur avec la mort de mon père quand j'avais 10 ans, donc là, il y a une bascule. Ouais. Mais ça ne m'a pas empêché de garder cet émerveillement. Et tout à l'heure, vous parliez de Oli, le soir, on écoute, ben voilà, moi j'écoutais France Inter déjà, et les mystères, je ne sais plus, l'émission, le mystère de l'étrange, etc. Et après, ben, la passion de la lecture est arrivée avec tous ces livres sur la vie après la mort. Et en même temps, je lisais Tintin, et voilà.
Et vous, Daniel Morin, quelles sont les lectures qui vous ont structuré ?
Ah bon, structuré, pas grand-chose, mais structuré, c'est ça mon problème. Mais alors, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait des livres de Jules Verne, justement, mais des vieilles collections qui étaient illustrées avec des dessins fantastiques. Et notamment, dans 20 000 lieues sous les mers, il y avait une image qui me terrifiait. C'est quand le capitaine Nemo est en expédition sous l'eau, et il se fait attaquer par une araignée de mer géante. Et je me souviens, ça me traumatisait. Et de temps en temps, j'allais provoquer le petit frisson en allant chercher la page, justement, de l'araignée de mer qui faisait très peur. Voilà, c'est un traumatisme.
Allongez-vous.
Allongez-vous dans le divan de Grand-Mère vous fasse. Bonjour Frédéric Ségrist.
Bonjour Ali.
Que faites-vous là ?
Mais je sais pas. J'écoute vachement bien.
Producteur à France Inter du podcast et de l'émission Blockbuster. Vous êtes un peu notre couteau suisse parce que vous remplacez à la fois Gonel Boulet et Julien Bisson. Vous allez assurer cette semaine la chronique Ma vie de parent.
Exactement. Exactement. Wow. Et vous allez me poser une question ou on va
Non,
rester
parce
comme
qu'on
ça
va parler de vos enfants qui sont de très grands lecteurs et ils vont partager leur coup de cœur par votre voix. Et d'abord, le thème de votre chronique quand même.
Justement, c'est-à-dire que moi je vais décomplexer les parents parce que je trouve qu'on donne beaucoup d'injonctions aux parents sur la lecture, sur ce qu'il faut faire avec les enfants. Je vais vous montrer comment tout rater.
Grand bien vous fasse.
Je te l'ai raconté 1000 fois l'histoire de la princesse gelée. Allez, maintenant on fait dodo.
Allez, Rébéi.
Je m'en rappelle plus.
Mais si, à la fin elle se dégèle et elle se marie avec le type. Allez, couche-toi.
Sur France Inter.
Et ce matin, à l'occasion des vacances scolaires, une sélection de livres jeunesse avec le club de lecture composé de Raphaël Bott, Maxime Massol et Marilyn Duval, accompagnée d'une jeune lectrice, Joséphine. Et avec nous également deux jeunes auteurs de livres jeunesse, Daniel Morin et Marie-Pierre Planchon. Marilyn Duval, vous vouliez, dans la lignée de notre conversation avant le disque, nous parler de La machine à lire de Bouquinville. C'est publié chez Frimousse.
Tout à fait, c'est juste que cette étude qu'on a eue hier m'a fait penser à ce livre qu'on m'a conseillé, qu'une lectrice m'a conseillé. Chez les bouquinvillois et les bouquinvilloises, les histoires s'écoutent, les oreilles pendues à une voix robotique. Donc plus personne ne lit dans cette ville. On va à la bibliothèque prendre des livres, les mettre dans la machine et puis les écouter ensuite, jusqu'au jour où la machine casse. Et donc plus personne ne lit. Plus personne ne sait lire et plus personne n'écoute d'histoire. On va donc aller voir la seule femme qui sait lire pour réapprendre à lire à tout le village qui va de nouveau lire et découvrir le plaisir de lire et pas seulement d'écouter.
Et ça s'appelle La machine à lire de Bouquinville chez Frimousse et on peut l'emprunter à la bibliothèque de Montreuil. Maxime Massol, vous nous racontiez une petite anecdote hors antenne.
Oui, une anecdote que j'ai trouvée intéressante. Cette semaine, j'ai deux adultes qui sont venus me voir en me disant que bah ils ne lisaient plus, justement.
Il n'y avait pas Daniel Morin, c'était pas Daniel.
Non. Je ne raconterai pas s'il était là. Et ces deux personnes, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'une des deux me disait « Moi, j'ai envie de relire avec des choses simples, accessibles, et pourquoi pas des livres jeunesse ?» Et elle en a découvert quelques-uns qu'elle aimait. Ses amis, elle me dit que ses amis se moquaient d'elle parce qu'ils disent que ce n'est pas des vrais livres, etc. Et bon, bah, évidemment, je l'ai rassurée, comme vous pouvez imaginer.
Raphaël Bott, journaliste à Télérama, qu'est-ce qu'on répond à tous ceux qui se moqueraient d'adultes qui aiment la littérature de jeunesse? C'est de la vraie littérature, au même titre que la littérature pour adultes.
Ouais, bah, on leur, ouais,
mais d'ailleurs, vous aimez pas d'ailleurs cette dichotomie entre littérature de jeunesse et littérature pour adultes.
Bah oui,
pour
moi je trouve que la frontière elle est très poreuse et que c'est de la littérature. Effectivement, il y a des choses adaptées à des âges et d'autres moins. Mais je suis certaine que si plus d'adultes mettaient leur nez dans plus de livres jeunesse, ils verraient à quel point c'est poreux. Alors évidemment, la littérature ado encore plus. Mais Marion Brunet vient d'avoir le prix Astrid Lindgren, qui a un peu le prix Nobel de la littérature jeunesse. C'est une autrice qui signe en littérature générale et en littérature jeunesse. Elle est sur ses livres ados, mais franchement, je vous donne, sans vous dire si c'est jeunesse ou pas, vous ne devinez pas. C'est poreux, voilà. Alors peut-être qu'il y a un peu plus d'espoir à la fin ou des ouvertures. Et encore, même là, je dis un peu de cliché en le disant comme ça. Enfin, en tous les cas, c'est juste plus d'ouverture d'esprit pour juste de la littérature et pas cloisonner, quoi.
Frédéric Segrist.
Oui, il y a l'idée de cloisonnement comme ça entre une littérature noble et une qui serait plus populaire sans intérêt. C'est vraiment un snobisme qui est juste là pour valoriser celles et ceux qui en parlent. Mais en vérité, j'ai vu tellement d'enfants, et pas que les miens, qui commencent par des mangas, qui vont ensuite lire une BD américaine, puis un roman, puis même un classique, l'Iliade, et repartir sur un manga, et sans jamais se poser de questions. Est-ce que je dois lire ou pas ? Il n'y a que les adultes qui parlent comme ça. Hein.
Allez, Maxime Massol, on commence cette sélection avec vous. Vous avez choisi un livre que les parents ou les grands-parents peuvent lire à leur bébé à partir de 18 mois. Ça s'appelle « C'est dans le jardin ». C'est écrit par Aurélie Sarrazin. C'est illustré par Roxane Campoy ou Campoy aux éditions Sens Dessus Dessous.
Oui, tout à fait. C'est un album aux pages cartonnées, donc solide pour tous les âges. C'est plein de couleurs et je pense que ça peut vraiment émerveiller même avant 18 mois en réalité. Mais bon, disons que c'est idéal à partir de 18 mois parce qu'on peut découvrir au fil des pages des animaux, des fruits, des légumes. On est invité à interagir avec le livre avec des mots comme touche, glisse, serpente, des choses comme ça. Et pour donner quelques exemples, on doit suivre du doigt le zigzag de la bave d'un escargot qui est mis en évidence par un vernis sélectif. On suit par exemple aussi les lignes en relief creusées par un râteau dans la terre. Enfin, là, c'est des choses qui sont très concrètes, très jolies en plus, je trouve. Les tiges rugueuses des potirons, des choses comme ça. Donc voilà, le travail de conception est vraiment impressionnant parce que chaque page est comme un vrai tableau. Et je pense que, enfin, nous, en tout cas, dès qu'on l'a mis sur la table des nouveautés, ça a été un succès. Les textures, elles sont subtiles, elles sont disposées avec intelligence. Et je trouve que c'est vraiment un livre idéal, quasiment parfait, à vrai
Est-ce
dire.
Est-ce que Daniel Morin peut tester, peut-être?
Voilà, ça me paraît intéressant.
Et puis ça amène un peu de beauté, de couleur, de lumière.
Ah. Et ça s'appelle donc « C'est dans le jardin ».
C'est bien.
C'est écrit par Aurélie Sarrazin et illustré par Roxane Campoy aux éditions Sens Dessus.
Ça me fait le week-end, merci beaucoup.
Marilyn Duval, pour les nettement plus grands, à partir de 14 ans. Ça s'appelle « Hyper » d'Émilie Chazoran aux éditions PKJ. Alors Myriam rédige deux journaux intimes. L'officiel que sa mère pourra consulter si elle tombe dessus. Et le journal intime officieux qui contient presque toute la vérité.
Exactement, et c'est le point de départ de ce roman, et c'est ainsi qu'on découvre Myriam à travers ces deux journaux intimes. Donc Myriam a 17 ans, elle est surnommée la Grousse, de manière très sympathique par les garçons du lycée, puisqu'elle est et grosse et rousse. Qu'à cela ne tienne, Myriam a beaucoup d'autodérision en apparence, et donc va déjouer, en tout cas moralement, et essayer de faire fi de tout ça en se moquant, en prenant les choses à la rigolade et en essayant de se sortir de tout ça. Dans ces deux journaux intimes, on va donc découvrir la vérité et la vérité vraie de Myriam, qui ne sont en réalité pas des vérités, puisque c'est le point de vue de Myriam et qu'on se rend compte très vite que Myriam n'est pas celle qu'elle croit et qu'elle se dévalorise beaucoup. Émilie Chazeron, j'en ai déjà parlé ici, dans Lady Papa, qui était un album pour les plus jeunes. Là, Émilie Chazeron, on la retrouve avec son ton très drôle. Il y a presque une blague par phrase, et vraiment, je me suis surprise à rire, ce qui m'arrive assez peu dans les livres. Elle est drôle, elle est enlevée, et on a envie de dire à Myriam, mais arrête Myriam, tu dis n'importe quoi, tu n'es pas grosse, et tu vas t'en sortir.
Vous parlez à vos livres ?
Tout à fait. Oui.
Rappelez le titre, Marilyn Duval.
Hyper de Émilie Chazeran.
Et c'est chez PKJ. Tiens, Joséphine, je rappelle que tu es élève. Tu es en 6e, 5e ?
5e.
5e, au collège Jean Moulin de Montreuil. Tu écris un journal intime ?
Non, pas spécialement.
Pas encore. Bon, alors quel est ton choix justement, Joséphine? Je crois que ça s'appelle Le Renard de Morlange.
C'est ça.
Et c'est un classique jeunesse d'Alain Surgé, illustré par Philippe Mignon, et c'était publié en 2005 chez Nathan.
C'est ça. C'est l'histoire donc du seigneur de Morlange, qui est très méchant, très cruel au final, avec toutes les personnes qui l'entourent, sa femme, ses chevaliers, les paysans, etc. Mais un jour, il va se retrouver dans la forêt, et un sorcier va lui lancer une sorte de malédiction, et il va devenir un renard-garou. C'est comme un loup-garou, c'est-à-dire qu'à la pleine lune, il se transforme en loup, sauf que là, c'est un renard. Donc, effectivement, au début, il n'y croit pas, et il voit que ça se réalise. Donc, c'est une manière d'approcher l'existence humaine. Alors, c'est très profond, dit comme ça, mais c'est le genre de livre qui d'habitude ne me plaît pas. Tout ce qui est médiéval et tout, c'est pas trop mon truc. Mais la manière dont c'est fait ici est très intéressante parce qu'on a vraiment un point de vue qui change. Et c'est très philosophique en fait. Et
quel est le message philosophique qui t'a plu, Joséphine?
Bah, le fait que on s'attache à la nature humaine. Et que c'est aussi une sorte de rapport de force. Enfin, c'est très intéressant pour les plus jeunes parce que c'est un conte, mais comme pour les plus grands parce qu'il y a un vrai sens derrière.
Et ça s'appelle donc Le Renard de Morlange d'Alain Surgé. Et tu en as admirablement bien parlé, Joséphine. Et c'est publié chez Nathan. Oui,
quand
Daniel
Joséphine a parlé d'un tyran qui était odieux avec tout son entourage, j'ai cru qu'on avait parlé de la jeunesse de cette émission, avec Ali qui était désagréable avec tout le monde. Mais non, puisqu'après ça va mieux, et on ne l'a pas encore constaté avec Ali.
Tiens, Frédéric Sigrist, les coups de cœur de vos deux ados?
Oui. Alors, il y a Tenderheart.
Ils ont quel âge, rappelez leur âge?
Alors, 11 ans. Zélie, elle a 11 ans. Et donc, elle, c'est...
Quand sont deux gros lecteurs. Hein. Moi, je les ai vus à l'œuvre cet été. J'ai rarement vu ça.
Enfin, ils n'arrêtent pas. Il faut dire qu'il y a énormément...
Et le grand, à quel âge?
Et le grand, il a 15 ans.
Voilà.
Il a 15 ans. Donc, Tenderheart pour Zélie, 11 ans. Donc, c'est un manhwa, c'est-à-dire un manga coréen, qui est justement l'histoire d'une jeune lectrice passionnée par les bouquins, et notamment par une saga. Et comme les choses sont bien faites, elle se retrouve plongée dans cet univers, et elle est amoureuse d'un des personnages principaux, un petit duc, qui est victime d'une malédiction, et dès lors, elle, comme elle sait la suite, elle s'ingénie à faire en sorte que son destin soit différent, et elle commence à s'occuper de ce petit duc pour changer la fin de l'histoire, et ça, ma fille adore.
Rappelez le titre.
Tenderheart. Enfin, c'est le cœur tendre.
Et votre fils?
Et mon fils, alors lui, c'est Dr. Stone, un manga aussi. Donc cette fois-ci, version japonaise. Et c'est sur l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux d'une jeune fille, et il a un ami très très bon en sciences, et le jour où il s'apprête à déclarer sa flamme à cette jeune fille, il y a une énorme lumière dans le ciel, et ils sont tous transformés en pierre. Et il se réveille 3000 ans plus tard parce que son ami scientifique a réussi à sortir de la pierre tout seul. Et dès lors, il faut sauver toute l'humanité et faire en sorte qu'ils sortent de leur carcan de pierre. Mais c'est un manga qui permet d'avoir un retour sur le point de vue scientifique, parce qu'ils sont obligés de tout réapprendre, les antibiotiques, comment faire du feu, etc. Et chemin faisant, en fait, ça permet au lecteur de découvrir comment la science a évolué au fil des siècles.
Rappelez-le titre.
Dr. Stone.
Raphaël Bott, toujours pour les ados, vous conseillez Entre ouverte de Zoé Le Priol. C'est publié chez Scripto Gallimard et c'est à partir de 15 ans.
En fait, pour préparer l'émission, j'ai réfléchi à un livre qui m'avait laissé vraiment, qui m'avait marqué sur ce début d'année, enfin jusqu'au printemps là. Et c'est vrai qu'Entre ouverte, c'est une lecture qui a vraiment laissé une trace chez moi. Et j'avais envie de la partager. Ça se situe à un moment très précis de la vie, puisque c'est juste le début des études, et c'est deux jeunes filles
de 15
qui,
ans.
Voilà, un peu plus grandes, elles commencent leurs études. Donc et c'est ce moment de vie où elles ont eu leur bac, elles commencent, elles s'installent Et elle quitte le nid et tout. C'est vraiment ça se concentre sur ce moment-là et c'est un peu le clé. C'est écrit en vers libre et c'est aussi cette écriture-là qui laisse beaucoup de traces avec une grande concentration. J'en ai encore des souvenirs très précis sur des détails, des miettes qui traînent. Alors vous allez vous dire, oh là, c'est peut-être très contemplatif. Déjà, ça se situe sur une période très courte dans le temps. Donc on est très proche de ces deux-là, de leurs histoires d'amitié, d'amour. Voilà, donc c'est cette trace-là que ça a laissé chez moi. Je vous conseille vraiment Entre-ouvertes à découvrir, c'est singulier.
Entre-ouvertes de Zoé Le Priol chez Scripto. Gallimard, Maxime Massol, à partir de 4 ans, peut lire Un garage qui décoiffe de Lise Beninka, illustré par Clémence Lallemand, et c'est chez Gallimard Jeunesse. Moi, ça m'a beaucoup plu.
Oui, c'est hilarant, j'adore. En fait, Albert, donc, c'est un super garagiste. Et la mécanique, alors ça n'a pas de secret pour lui, tout le monde vient le voir en toute confiance. Mais un jour, en fait, il est en train de vérifier la pression des pneus et le compresseur lui échappe des mains. Et là, son client se retrouve affublé d'une coupe de cheveux complètement ébouriffée qui ne lui plaît pas du tout. Donc du coup, Albert, bah, il pense déjà mettre la clé sous la porte, tout le monde va dire qu'il est incapable, etc. Sauf que dès le lendemain, il y a un nouveau client qui arrive pour lui demander une coupe de cheveux. Alors du coup, il se dit, bah, pourquoi pas, et ça va être, du coup, c'est hyper drôle parce qu'il prend goût à la coiffure, il devient du coup complètement fou
c'est
de ça.
C'est très drôle, les gens sont savoureux.
Ce qui est très drôle, c'est que parfois les clients viennent et ils adorent le résultat et parfois ils détestent, ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne laisse jamais indifférent et qu'on parle de lui dans toute la ville. Bon voilà, tout ça pour dire, cet album, il est très drôle, les illustrations sont très colorées et je trouve que ça magnifie la créativité d'Albert parce que vraiment, on en voit de toutes les couleurs et bon, je ne dévoile pas la fin, mais je la trouve particulièrement réussie. Donc voilà, à partir de 4 ans, et je vous conseille aussi les autres albums de ce duo. Y avait Diplodocus et autres dinosaures méconnus, et l'incroyable Ramsieste et autres dingueries d'Égypte. Elles ont beaucoup d'humour.
Et ce duo, c'est Lisa Beninka et Clémence Lallemand. Ouais. Ce qui est regrettable, c'est que ni vous, ni Daniel Morin, ni Frédéric Sigrist, ni moi ne pourrons aller chez Albert, matin, car nous avons tous...
En fait, peut-être qu'il veut faire des miracles.
Il peut faire de belles perruques.
Il peut faire des perruques, oui, effectivement. Et donc, ça s'appelle Un garage qui décoiffe chez Gallimard Jeunesse dans la collection Giboulée. Marilyn Duval, à partir de 4 ans, vous proposez Histoire d'un œuf de l'autrice japonaise Mamiko Shiotani aux éditions La Partie.
Tout à fait, c'est l'histoire d'un œuf. Voilà, tout est dit.
Ok.
Je savais que ça vous plairait. Je savais que ça vous plairait. Voilà, un œuf qui découvre qu'il est un œuf et qui va nous raconter. Alors en fait, c'est un œuf dur. Ah. Et donc, il va.
Ça change tout.
Mais voilà. Oui, parce qu'il tombe et donc il ne se casse pas. Pardon. Il tombe et donc ne se casse pas. Et il va pouvoir donc partir à l'aventure dans la maison, n'allons pas trop loin non plus. Ouais. Et donc il va rencontrer un certain nombre de personnages, et il va devenir copain avec un marshmallow, il va rencontrer une pendule, à qui il enlève les piles parce qu'il faudrait pas qu'elle travaille trop. Voilà, donc c'est vraiment une petite aventure comme ça qui semble assez simple, mais tout comme Joséphine disait, il y a une vraie philosophie derrière, et des vraies réflexions philosophiques. Comme... que l'adulte... Bah, typiquement, ouais. Pour ne pas faire trop travailler la pendule, parce que le travail, c'est pas toujours...
Exactement.
Donc c'est plein de petites phrases comme ça. C'est très joli, les illustrations en bichromie sont vraiment très douces. Et moi, cet œuf m'a vraiment fait penser à Humpty Dumpty, vous savez, ce personnage de Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, ça fait aussi une petite référence. Voilà.
Et ça s'appelle Histoire...
Ouais, Eric Ciotti aussi.
Pourquoi vous me mettez Eric Ciotti dans ce moment de poésie, là, Frédéric Sigrist.
Sur la couverture, il y a vraiment un air.
Ouh là là, enlevez-moi cette image mentale.
Beaucoup plus doux, là, non ?
Histoire d'un œuf de l'autrice japonaise Mamiko Shiotani aux éditions La Partie.
Depuis son arrivée dans sa nouvelle maison du Nord, le ciel est désespérément de la même couleur. Gris, gris, comme disait sa mamie. Ce matin, Jeannette se dit que peut-être enfin ça va changer. Alors elle va vite soulever les rideaux avec une lumière d'espoir dans le regard. Mais non, zut de zut, une fois encore, il fait gris, gris. Jeannette devient alors songeuse et se souvient du bleu du ciel. Une couleur et des mots qui lui rappellent de beaux moments, mais qui n'existent plus que dans le passé. « Dis soleil, quand reviendras-tu ?»
Extrait du podcast Une histoire et au lit, Jeannette et l'effet du temps qu'il fait, avec évidemment la voix de Marie-Pierre Planchon. C'est un texte de Marie-Pierre également. Et c'est un peu vous, cette Jeannette. Je cite les premières lignes. À peine Jeannette sut-elle marcher qu'elle aima regarder le ciel, la nuit tombée et voir apparaître les étoiles. Dès qu'elle sut parler, elle adora dire à son premier quartier « Coucou, la lune ». La grande vertu de ce livre, c'est d'apprendre aux enfants à aimer la pluie aussi.
Et oui, c'est un problème que j'entends régulièrement. Les gens me disent « Oh, la pluie, oh là là !» Comme aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on dirait que c'est fait exprès. On a une belle perturbation qui arrive et les gens...
Je sais.
Et ça donne de la dépression, ça donne souvent... Et je connais même moi, autour de moi des personnes qui sont tellement sensibles au temps, surtout quand une dépression arrive, ils deviennent dépression.
Mais votre livre est pédagogique, il apprend aux enfants à accepter les 1000 variations du temps qu'il fait.
Oui, parce que en même temps, la pluie est nécessaire. Donc je raconte pourquoi à Jeannette, enfin les fées, parce que je fais intervenir des fées, hein, c'est le merveilleux, moi j'adore les enfants et leur émerveillement, et donc je fais appel à la fée des nuages moqueurs, qui a été inspirée par Charline Van Hennecker, et également...
Elle s'appelle Charline d'ailleurs.
Elle s'appelle Charline, et la fée Nicole, la fée de la pluie qui chante, parce que bien sûr la pluie elle chante aussi, et il faut la faire chanter pour donner un peu de baume au cœur, et de comprendre pourquoi il y a la pluie, parce que s'il n'y avait pas de pluie, bah, elle ne pourrait pas avoir ces petits gâteaux que sa maman lui fabrique quand elle a un petit moment l'après-midi pour ses goûters, parce qu'on ne pourrait pas avoir de blé, parce que tout ça, la terre a besoin d'eau. Bon.
Comment est née cette histoire et quelle était la difficulté quand on écrit pour les enfants?
C'était vraiment de m'imaginer d'avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, et de me dire jusqu'où je peux comprendre, qu'est-ce que je peux comprendre, qu'est-ce que je ne peux pas comprendre, et en gardant cette part d'émerveillement. Ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus poussé à écrire cet ouvrage, pour donner envie justement aux enfants de comprendre comment ça fonctionne, même aux parents, parce que quand on le lit, et de vraiment de synthétiser, et en même temps d'être au plus clair avec ces nuages, comment ils s'appellent, puis en même temps de donner quelques informations, mais de laisser cette part au rêve, parce que quand je vois les enfants avec leur portable, etc., je n'en peux plus, et je me dis, s'il y a comme ça des livres qui leur demandent, enfin qui leur soufflent, parce que en fait, finalement, de poser le portable et de pouvoir aller se régaler et rêver, parce que les nuages, ça fait rêver, vous regardez les nuages, il y en a de toutes sortes, ça bouge tout le temps, le ciel, ça bouge tout le temps, et puis quand le soleil arrive, vous savez pourquoi, quand le soleil arrive, vous avez un signe quand le soleil arrive. Ah. C'est quand l'arc-en-ciel arrive. Ah oui, voilà.
Frédéric Sigrist, non, vous vouliez commenter vous...
Non, mais en fait, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, sur la manière d'écrire pour les enfants, je pense que ce qui prédomine, c'est l'histoire. C'est-à-dire que là où, dans un roman, souvent, l'auteur peut se perdre dans des descriptions et avoir son style qui le nourrit lui-même, et où tous les adultes vont dire... Quelle plume! Les enfants, ils disaient non, l'histoire. Voilà. On avance ou on reste là pendant 2 heures. Je pense que c'est vraiment ça.
Et surtout, j'ai souhaité une illustratrice, un illustrateur, où il s'est tombé sur une illustratrice, Laure Felipon, pour avoir vraiment un univers enchanté, comme je pouvais avoir quand j'étais gamine, quand je lisais les Martines, etc. Avoir des personnages qui donnent envie et qui font rêver et qu'on s'émerveille.
Allez, il est temps de retrouver à 11h20 la chronique Ma vie de parent. Cette semaine, Frédéric Sigrist.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Frédéric Sigrist.
Aujourd'hui, mon ami du vendredi, Ali, c'est une femme qui n'a... Attendez. Ah merde, je me suis planté. Non, ça c'est la chronique quand je remplace Guimetto Di Fino. Alors la recette des profiteroles au sirop d'érable de ma tati Yasmina, ça c'est quand je remplace Grégory Cohen. Non, en fait, parce que j'ai remplacé tellement de monde dans cette émission, je ne suis plus un chroniqueur, je suis une playlist de grève. Frédéric Playlist, voilà, appelez-moi comme ça maintenant. Les slips à poche peuvent-ils être un frein à la liberté de choix? Ça c'est Thibaut. On est quel jour? Mercredi, voilà, ma vie de parent, voilà, ça y est, ça me revient. Voilà. Je remplace Julien Bisson. Une chronique de parent élégante, érudite, avec une voix bien posée et la coupe de cheveux de Dora l'exploratrice. Bon, les cheveux aujourd'hui, c'est hors forfait. Hein. Oui, Ali, effectivement, je ne peux qu'aller dans votre sens. Les Français lisent de moins en moins. occupés qu'ils sont à occuper des podcasts d'émissions qui se lamentent sur le fait qu'ils ne lisent pas assez. Non, parce qu'il faut le reconnaître, on fait aussi un peu partie du problème à Radio France. Hein. On l'a entendu aujourd'hui, on fournit des tétrachiers de podcasts de 6 jours de vie à 82 ans. Sur tous les sujets, Oli, Les Odyssées, Bestioles, Naruto, One Piece, Léon Blum, même Jean-Marie Le Pen, on a. Et après, on s'étonne benoîtement que les Français n'aient plus le temps de lire.
Et vous avez fait un Oli aussi.
Mais j'en ai fait un aussi, hein, je suis coupable. Voilà. Hein. On dirait le PDG de McDonald's qui chiale devant le taux de cholestérol de la population américaine. Oh, pourquoi ils sont gros, les gens ? Le temps de cerveau disponible, c'est Patrick Lelay qui en parlait encore le mieux, c'est une bataille sans merci. Et l'intention de nos enfants, c'est un centre aéré qui ouvre juste en face de chez Jean-Marc Morandini. Les injonctions qu'on fait aux parents en 2025, c'est un truc de malade. Parce que quand on résume, on voudrait que les enfants lisent, mais pas sur des écrans, sauf bien évidemment ceux fournis par le collège, le lycée, Pronote, Educonnect, Parcoursup. On voudrait qu'ils aillent jouer dehors, mais pas trop loin. Pas sur leur téléphone portable qui nous permettent de les géolocaliser en permanence. Faut pas non plus négliger la pratique sportive, car selon une étude alarmante de l'OMS, les adolescents sont de moins en moins musclés. Ni les pratiques artistiques qui sont essentielles à l'ouverture des horizons intellectuels de l'enfant. Faut qu'ils rangent leur chambre, mettent la table, apprennent une langue étrangère utile comme le latin ou le sumérien. N'oublie pas d'appeler leurs grands-parents de temps en temps, qu'ils trouvent le temps de s'ennuyer aussi, car c'est indispensable que l'enfant se confronte à lui-même durant les 4 minutes de temps libre qui lui reste, dirait Caroline Goldman. Et désormais, il faut aussi qu'ils pensent à leur orientation professionnelle dès la maternelle. Alors déjà à ce stade, Ali, on est sur une semaine de 82 heures et un budget mensuel de 2000 balles par mois. Et là, l'enfant n'a toujours pas lu de livre. Alors là, je vais décomplexer tous les parents qui nous écoutent. Les enfants, ils lisent. Ils lisent des livres, des manuels scolaires, des textos, des messages sur des forums, des textes dans les jeux vidéo, des BD, des mangas. Ils lisent tout un tas de trucs qui ne plaisent pas forcément aux adultes, mais ils lisent. Et il faut aussi que les adultes arrêtent de se prendre pour des grands lecteurs parce qu'ils ont le métronome de Laurent Deutsch ou Manche Prix M de leur bibliothèque. Calmez-vous. Hein. J'ai la chance d'avoir des enfants qui lisent énormément. Alors, parce qu'ils n'ont aucune vie sociale, comme leur papa et leur maman. Et aussi parce que c'est un moyen pour eux de ne plus m'entendre. Mais le secret, en fait, ça a toujours été de les mettre en contact avec des livres. Si vous voulez qu'un enfant lise, il faut lui mettre des livres à disposition. Partout où on est allé, on en a toujours visité. Des librairies, des bibliothèques ou des médiathèques. On lâche les enfants dedans comme des chiens truffiers et on attend qu'ils reviennent avec des livres dans la gueule. On rentre, ils les lisent, ils nous disent si ça leur a plu et si c'est le cas, on les lit également. Et ensuite, on en parle ensemble, une sorte de masque et la plume junior, et 9 fois sur 10, ils ont raison et ils sont de beaux conseils. Mais en plus, ça va nous permettre à nous de leur dire « Ah bah tiens, ça m'a fait penser à tel livre ou tel BD que moi j'ai lu et qui a dû sûrement servir d'inspiration aux auteurs ou aux autrices de ton livre. » Et voilà comment ça se passe, une communication. Les enfants sont les meilleurs influenceurs lecture du monde. Et je pense qu'en tant que parent, il ne faut pas les forcer à lire plus, mais plutôt se forcer à lire ce qu'ils nous conseillent.
Joséphine, petite réaction, ça te parle cette chronique de
Frédéric Christ ? Plutôt oui, parce que quand on lit des livres pour le club, l'idée c'est aussi... que, en fait, on fait des chroniques pour que tout le monde puisse voir ce qu'on en pense, en fait. Et que, y compris des adultes, ça puisse leur donner envie de lire des livres de jeunesse.
Et un jour, tu prendras la place de Frédéric Sigrist. Tous les épisodes...
Non, on est mal payé.
Tous les épisodes de ma vie de...
Oui, oui.
Tous les épisodes de ma vie de parent sont à retrouver sur l'appli Radio France.
France Inter.
C'est quoi déjà l'histoire là ?
Si la merdon avec les bottes de cette lieu là.
Ah, avec la peau d'âne.
Non, c'est pas ça, il y a celle du petit poussé. Avec ses frangins qui se fait abandonner par les parents.
Sur France Inter.
Et ce matin, à l'occasion des vacances de printemps, une sélection de livres jeunesse avec le club de lecture composé de Raphaël Bott, Maxime Massol et Marilyn Duval, accompagnés d'une jeune lectrice Joséphine. Mmh. Avec nous également Daniel Morin et Marie-Pierre Planchon qui publient leur premier livre jeunesse. Pas ensemble, hein, chacun de votre côté.
Non, précisez bien, Ali. Oui, surtout.
En harmonie, mais pas ensemble.
Raphaël Bott, allez, pourquoi avoir choisi Les Adelphides d'Alice Dosier ? C'est publié chez Actes Sud, un roman à lire à partir de 11-12 ans. Trois frères et une sœur ont une mission, trouver un remède pour que leur reine puisse donner naissance à de nouveaux enfants.
Alors, je suis un peu comme Joséphine qui s'est fait avoir par un conte médiéval. A priori, elle n'aime pas les histoires médiévales et elle a aimé celui-là. Et ben moi, a priori, je suis pas très attirée par les lectures de l'imaginaire, la fantaisie et tout ça. Ben, je me force à en lire parce qu'il y a déjà des lecteurs qui en lisent.
Vous faites de la peine à Frédéric Sigrist.
Hein. Ben, je suis désolée, mais justement, je me soigne. Non, mais... J'y vais quand même.
Et, je vais prendre sur moi.
Et je suis récompensée parce que je suis tombée sur Les Adelphines et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce roman donc de l'imaginaire. Déjà, tous les uns que les autres, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une Adelphie ? Non, je ne savais pas avant de le lire, je vous le dis tout de suite. Voilà, bah, en gros, c'est un mot qui est fratrie, mais qui permet d'être dégenré. Ça peut être des frères ou des sœurs, deux frères, deux sœurs, une Adelphie. Voilà. Et dans ce royaume, il y a un rite initiatique qui concerne les frères et sœurs. Voilà. Donc, on les suit, comme ça, cette aventure. Il y a une grande place de la nature, qui est aussi un des points dans l'écriture qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et l'autre chose que je voulais préciser sur ce livre, c'est que bah, c'est un premier roman et c'est une libraire qu'il a écrit. Voilà. Donc je vous conseille de découvrir les Adelphides.
Les Adelphides d'Alice Dauzier chez Actes Sud. Maxime Massol, vous avez choisi Le Marronnier. C'est écrit par Emmanuel Villain, illustré par Louise Mézel. C'est publié à l'École des loisirs. C'est un court roman à lire à partir de 6-7 ans. Et je rappelle qu'Emmanuel Villain est l'auteur notamment d'un petit éloge de la procrastination.
Et oui, en fait, donc c'est, Le Marronnier, c'est l'histoire d'Edgar qui adore collectionner les marrons qui tombent du grand marronnier qui se trouve dans la cour de son école maternelle. Alors il en fait des billes, des boules de pétanque, des petits bonhommes, voilà, ça l'amuse. Mais bon, ses parents, ils en ont assez parce qu'il y en a partout dans la maison, alors ça commence à devenir un petit peu encombrant. Et en plus de ça, Edgar, il va bientôt quitter la maternelle pour entrer au CP, et donc il va le quitter, hein, ce fameux marronnier. Donc je vous laisse un peu découvrir finalement, dans cette première lecture pleine de douceur, comment est-ce qu'il va se remettre de cette grande étape dans sa vie. J'ai trouvé que c'était vraiment très joli, c'est un beau portrait d'un enfant amoureux de la nature, créatif, contemplatif, mais il se passe quand même des choses, on s'ennuie pas. Les illustrations sont dans un style plutôt naïf et sont très réussies, avec des personnages expressifs. Donc voilà, une première lecture qu'on peut dévorer dès le CP, mais qui peut, je pense, aussi séduire des enfants un peu plus grands, CE1, CE2, parce que c'est très joli. Et en plus, c'est un début de série, il y aura une suite. Donc,
rappelez le titre.
Le Marronnier, une histoire vraie. Donc Emmanuel Villain et Louise Mézel à l'École des loisirs.
Bonjour Cyrine Bagnounès.
Bonjour Ali.
Programmatrice de cette émission. Vous collaborez également au magazine J'aime lire. Et votre coup de cœur en ce moment, c'est Femmes d'Asgard, la mythologie nordique. C'est écrit par Annie, c'est publié chez Glénat Jeunesse. Et c'est aussi pour les adultes qui ont envie de découvrir les déesses scandinaves. Hein.
Absolument.
Parce j'ai appris beaucoup de choses dans le feuilleton.
C'est très complet. On rencontre beaucoup de personnalités féminines de la mythologie nordique. Alors, Femmes d'Asgard, c'est le premier album d'une autrice qui a plusieurs cordes à son arc. Elle s'appelle Annie, comme vous l'avez dit. Elle est belgo-marocaine. Elle est doctorante en histoire de l'art et en archéologie. On a tendance à croire ce qu'elle va raconter dans son bouquin. C'est un album documentaire donc, qui explique la mythologie nordique. Et surtout, ces personnages féminins, qui sont souvent délaissés dans les différentes adaptations. On a assez lu, on a assez vu Thor, Odin, Loki, place à Gefjon, la déesse de l'agriculture, celle qui aurait créé l'île de Seeland, donc qui est la principale île du Danemark. Lofn, la déesse de la bienveillance et de l'amour, qui est une grande défenseuse des couples rejetés par la société. Ou encore les Nornes, qui sont un peu l'équivalent des parcs grecs, mais en plus sympa et plus badass, puisqu'elles accompagnent les Valkyries sur le champ de bataille. Chacune de ces légendes sont merveilleusement illustrées par Annie elle-même, puisqu'elle est aussi dessinatrice et tatoueuse. Et c'est vraiment magnifique. Chaque page ressemble à un croisement entre un vitrail et une aquarelle. On est facilement embarqué dans toutes ces légendes. Donc voilà, je vous conseille de lire Femmes d'Asgard d'Annie.
Femmes d'Asgard, c'est publié chez Glénat Jeunesse. Et Frédéric Sigrist va vous le piquer, hélas.
Non, mais parce que je l'ai déjà.
Ah, vous l'avez déjà.
C'est vraiment très très bien.
Ah oui, Frédéric Sigrist.
Non, c'est vraiment très très bien. C'est le travail qui est fourni. Et en plus, sur une mythologie qui est beaucoup plus riche que ce qu'on en connaît. Donc je valide à fond les bains.
Ce soir, ce sera le 10e soir sans manger. Il faut que ça cesse. J'ai décidé que nous allions manger Johnny.
Quoi ? Reprirent encore Brigitte et Nénette. Mais c'est impossible, c'est notre chien, nous l'aimons, comme s'il faisait partie de la famille.
On n'a pas le choix, finit par dire le pauvre Franck. Franck ouvrit la porte, prit son fusil et dit « Allez, viens Johnny, viens mon chien. » Avant de commettre l'irréparable, il lança « Adieu mon chien, adieu !» Puis, il entendit un bruit bizarre. « Côte, côte, côte !» Mais on dirait le bruit d'une poule.
Vous faites très bien la poule, Daniel Morin.
Ah, c'est un métier.
Dans ce podcast, Oli Bouboule, la poule trop cool. Oui. C'est illustré par Mouk. Hein, et alors, je lis les premières lignes. Allez-y. Il était une fois une famille pauvre, très pauvre, très très pauvre. Elle vivait dans une forêt où il faisait froid, très froid, très très froid. Il y avait Franck, le père, Brigitte, la mère, Nénette, leur fille et Johnny, le chien. Alors, ce livre, Daniel Morin, montre un dilemme moral. C'est presque un conte philosophique. Mmh. Joséphine parlait tout à l'heure de philosophie à propos de sa lecture, et il y a une dimension assez philosophique dans ce dilemme moral.
Faudrait le faire lire à notre invité, qui, je suis sûr, arriverait à en tirer la substantifique moelle. Alors, ça commence de façon très, très triste. Mais je me suis dit, voilà, c'est France Inter.
Oui, et puis c'est toi, et puis c'est pas fini.
On va pas commencer de façon joyeuse. Donc, il faut que c'est de la misère, il faut que ça chiale un peu. Il faut qu'au-dessus de moi, il y ait un portrait des Dardennes, vous voyez, un petit peu. Bon, c'est pour ça.
Qui est quand même contrebalancé par le dessin, qui est très drôle quand même.
Formidable.
Et or, qui est Bouboule alors? Racontez-nous un petit peu cette poule. Et comment cette poule s'est invitée dans votre imaginaire?
Vous savez, si on regarde ce qui se passe dans mon imaginaire, ça va commencer à être très très compliqué. Bouboule, mais c'est un peu comme quelque chose qui n'existe pas en fait. C'est une espèce de magie qui passe et qui passe par là, qui a la forme d'une poule, histoire de dédramatiser la chose, et qui en fait apporte de l'espoir à une famille qui est plutôt côté France Inter, côté un petit peu désespérée, qui est dans la chialade parce qu'elle souffre.
Quelle caricature, Daniel. En tout cas, je ne mangerai plus mes nuggets.
Regardez nos partenariats.
Je ne mangerai plus mes nuggets de la même manière. Après avoir lu Bouboule, la poule trop cool. Qu'est-ce qu'il y a de Bouboule en vous, Daniel Morin? Je rêvais de poser cette question.
Mais c'est vrai que c'est un petit peu l'accomplissement de votre vie, là.
Oui, Marie-Pierre.
C'est ce que disait Jung. En fait, les contes sont là pour relier le conscient et l'inconscient. Donc ça ravive tout.
Mais qui est ce monsieur qui crée des contes?
Carl Gustav Jung, oui, non, vous aviez envie de...
Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime les humains, mais qui ont moins de 5 ans ou plus de 95, en général. Ce qui est au milieu, vous savez, je me méfie beaucoup. Pourquoi moins de 5 ans? Parce que ça n'a pas encore de filtre. Et pourquoi plus de 95? Parce que s'il y avait des filtres, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Donc, c'est pour ça que j'avais très envie de m'adresser aux enfants et de leur faire de façon pas très directe une petite morale comme quoi tout peut s'arranger et il ne faut pas faire obéir toujours à ses premières intentions et relayer ses premiers instincts.
Comment vous avez travaillé avec Mouk?
À distance.
C'est passionnant.
Elle a reçu. Bah écoutez, je sais pas comment vous travaillez avec vos illustrateurs, si vous en avez, vous. Mm. Ouais, vous n'en avez pas.
Ouais. Et blanc.
Ce qu'il y a, c'est que on m'a proposé différents styles et après j'ai choisi parce que j'ai vu tout de suite que ça collait
très drôle,
avec l'image.
Le dessin est très très drôle.
L'image que j'avais justement de Bouboule.
Allez, on passe à vous, Marilyn Duval. On termine avec vous. Il nous reste une poignée de secondes.
Déjà
vous adorez les livres documentaires et c'est pour cela que vous avez choisi Le Cœur, Histoire, Science et Beaucoup d'Amour de Noémie Fabra. C'est chez Gallimard Jeunesse. C'est à partir de 9 ans et franchement, c'est mon coup de cœur.
Bah, tant mieux, nous aussi, on a beaucoup aimé à la bibliothèque. Un livre qu'on peut feuilleter 10 minutes, une heure. On fait comme on veut, on peut lire des petits bouts. Il y a des petits bouts de paragraphes et on va apprendre plein de choses.
Sur le cœur.
Sur le cœur, voilà. Son poids, sa taille, comment il fonctionne. Les illustrations sont hyper chouettes, très drôles. Dans la double page, comment ça marche, il y a des petits vélos qui symbolisent le chemin du sang et tout ça. On a un peu l'impression, et je vais faire une référence de vieille, désolée d'être dans Il était une fois la vie. Il y a cette petite, vous vous souvenez de ces petits globules blancs? Ah bah voilà, merci. Merci Joséphine, on doit avoir le même âge.
Aussi.
Tout à fait. Donc on a le cœur dans l'histoire, en forme de cœur, avec des plantes qui ont la forme de cœur. Et aussi, le cœur brisé, le désamour, et le cœur sincère, les expressions, voilà.
C'est vraiment très très bien fait.
Ouais, c'est très complet.
Le cœur, histoire, science et beaucoup d'amour de Noémie Fabra chez Gallimard Jeunesse. Et toute la sélection des livres cités est à retrouver évidemment sur l'appli et le site de Radio France. Merci beaucoup Marilyn Duval de la bibliothèque de Montreuil, Maxime Massol de la librairie Chantelivre, Raphaël Botte de Télérama. Merci Joséphine, collégienne
chapeau,
à Montreuil. Merci pour cette première sur France Inter.
Je vais relire.
Oui, dans Le Masque et la Plume bientôt de Rebecca Manzoni. Alors là, elle ferait une excellente recrue.
oublié, lire est intemporel, nous a rappelé Joséphine.
Ah, lire est intemporel, ça c'est la grande phrase à retenir ce matin. Merci Daniel Morin. Bouboule, la poule
quel
trop
plaisir.
Cool, c'est publié chez Michel Lafon en coédition avec France Inter, dans la même collection. Marie-Pierre Planchon, merci d'être venu. Jeannette et les fées du temps qu'il fait.
Merci
et merci au couteau suisse, Frédéric Sigrist. Je ne sais pas si vous confierez la chronique médicale. Je ne sais pas.
Mais pourquoi pas
bah
pourquoi
oui.
Vous pourriez être surpris.